to Philosophy Première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 17 octobre 2001 à Saint-Judard.
Il y a une question posée. La liberté des actes de l'homme peut-elle être l'expérience par laquelle j'entre dans la question métaphysique de la personne ? Et j'entre dans la question métaphysique de la personne par un point de vue plus direct, puisque la recherche de la personne au plan métaphysique se fait nécessairement après la découverte de la substance et de l'acte. Et en découvrant la substance, j'ai découvert le lien entre la substance et l'âme. Il ne faut pas oublier ça. Dans la découverte de la substance, je me pose la question de savoir quelle est la relation entre l'âme et la substance. Puisque, normalement, la métaphysique présuppose la philosophie du vivant, et la philosophie du vivant mais en présence de la découverte de l'âme humaine, pas l'âme humaine. Et je me pose la question, quelle différence y a-t-il entre l'âme et la substance ? Et c'est important de regarder les deux. L'âme est principe de vie. La substance est principe d'être. Pour moi, mon être, c'est ma vie. Ah. Et ma vie, elle pourrait se couper de l'être. D'être uniquement la conscience que j'ai d'être un vivant. J'ai la conscience d'être un vivant. J'espère, vous aussi, vous avez la conscience d'être un vivant. Mais quand vous avez conscience d'être un vivant, êtes-vous en métaphysique ? Ah, grave question. Comprenez, la conscience d'être un vivant, un phénoménologue, là, et c'est même central pour lui. C'est ça qui lui permet de faire sa phénoménologie. La conscience que j'ai est nécessairement du côté de l'intelligence. J'ai conscience d'être un vivant. J'ai conscience d'être une personne. Est-ce que c'est la même chose ? J'ai conscience d'être un vivant. Lorsque je me réveille, avez-vous conscience d'être une personne lorsque vous vous réveillez ? Pas toujours. Au petit lever du matin, vous n'avez pas conscience exacte d'être une personne, mais vous avez la conscience d'être quelqu'un qui se réveille, normalement. Et normalement, il y a un petit moment où vous arrêtez pour voir que cette conscience, je me réveille, il est tel jour, je vais faire ceci. Vous prenez conscience de vos activités que vous allez faire. Première activité, m'habiller. Au fond, vous n'avez pas conscience tout de suite d'être une substance. Alors, il y a là un point très curieux et très intéressant, c'est que mon âme et principe de mes opérations vitales, de toutes mes opérations vitales. Tandis que conscience que je suis une substance, je l'ai acquis grâce à une découverte de la substance. Et la découverte de la substance, je l'ai découvert à partir du jugement d'existence. Ceci peut se mouvoir. Ceci peut être libre. La liberté, j'en ai conscience à quel moment ? Dans ma conscience vitale, pas dans ma conscience d'être. Je ne suis pas libre d'exister. Vous n'avez pas l'expérience de votre vie, de votre liberté, puisque vous avez conscience de la limite de votre liberté quand vous avez la conscience de l'être. Donc, la conscience que vous pouvez avoir de votre intelligence, de votre connaissance, de votre amour, n'est pas la conscience métaphysique qui me fait découvrir tout de suite la substance. Autrement, j'aurais connaissance de la substance simplement par la conscience que j'ai de vivre. J'ai la conscience de vivre. Et par là, j'ai une certaine conscience immédiate de mon âme. Vous savez bien qu'il y a deux connaissances de l'âme. Il y a la connaissance que l'âme existe, et puis connaissance de ce qu'est l'âme. Et pour voir comment mon âme est une substance et comment ma substance est une âme, c'est la conscience de ce qu'est mon âme. Elle me donne cette autonomie dans mon être. Parce que pour moi, être et être vivant, ça se touche. Mais ce n'est pas la même chose. Je suis un être vivant. Et cet être vivant existe. Mais mon existence est plus radicale que ma vie. Et c'est là où je découvre comment mon âme me conduit à ma substance. Ma substance, c'est mon âme. Mais l'âme n'est pas la substance. Vous pouvez affirmer les deux. Vous affirmez qu'en effet, votre âme, c'est votre substance. C'est par votre âme que vous avez votre autonomie. Votre autonomie d'exister. La conscience que vous avez d'exister, vous l'avez par votre âme. Mais votre âme n'est pas la substance. La découverte que j'ai de l'âme n'est pas encore la découverte de la substance. Il faut que la découverte de la substance se fait pour elle-même. Et quand je l'ai faite, je peux identifier mon âme et ma substance. Vous n'avez pas deux choses, votre substance et votre âme. Mais vous découvrez votre âme plus facilement que votre substance. Puisque découvrir votre âme, vous la découvrez au niveau de la vie. La substance, vous la découvrez au niveau de l'être. Mais comment vous, être et vie, s'identifient ? Votre vie, c'est d'être. mais votre être est autre chose que votre vie. Alors vous pouvez identifier âme et substance. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'expérience que vous avez de votre liberté, la liberté des actes de l'homme, peut-elle être l'expérience pour laquelle j'entre dans la question métaphysique de la personne. Ça peut être une entrée, mais la métaphysique ne se découvre pas par la liberté. La métaphysique se découvre par l'au-delà de la liberté, c'est que je suis. Et même quand ma liberté est limitée, j'existe encore. Je ne peux pas identifier ma liberté, mon existence. C'est justement l'erreur d'une certaine phénoménologie d'identifier ma liberté, mon existence. Ma liberté est une forme d'exister. Mais ce n'est pas l'existence. Je vais donc essayer de réfléchir. Ayant découvert la substance comme principe formel de ce qui est, cette substance qui est ma substance, c'est mon âme. Et c'est le fondement de ma personne. Ma personne assume ou implique, plus exactement, ma personne implique ma substance. Elle implique mon âme, c'est sûr. Et elle implique la substance, puisque mon âme et ma substance sont la même réalité. Et quand je suis dans le pos, le comment, l'existence est présente, elle est explicite, donc je peux dire que mon âme est la partie fondamentale et première de ma personne. Et ça, c'est très important de bien le voir, parce que ça me fait comprendre justement qu'il y a une connaissance métaphysique de ma personne. Mon autonomie radicale vient de ma substance. Par ma substance, je suis distinct des autres et je suis moi-même distinct des autres, ayant mon autonomie fondamentale et première, c'est ma substance, c'est mon âme. La personne humaine implique l'âme. Vous voyez, le fait de ne plus voir l'âme dans l'homme, dire que l'homme est un être sans âme, ça se dit aujourd'hui, hein. Je chez certains biologistes, ça se dit. Parce que le biologiste n'atteint pas l'âme. La science biologique, elle atteint les opérations, mais elle n'atteint pas la substance, l'âme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains biologistes nient l'âme et tout simplement regardent que la personne, c'est le sujet. Et quand je dis que la personne, c'est le sujet qui demeure toujours le même, je suis la même personne depuis ma naissance jusque maintenant. Mais ma personne s'est développée. Mais elle s'est développée. C'est une chose seconde. Ce qui est important, c'est qu'elle est. Et si ma personne demeure, qu'elle est, à travers tous ces moments différents de ma vie, je saisis quelque chose qui est au-delà du venir. Ma personne. Ma personne est au-delà du devenir. Elle se développe dans le devenir. Elle implique le devenir, mais elle n'est pas le devenir. Ma personne, c'est justement ma substance, mon âme, mon être, dans ce qu'il a de premier. Parce que quand je dis que la substance, quand je dis que ma personne est ma substance, je veux dire que ma personne est ce qu'il y a de premier dans mon être. Mon être est personnel. Et c'est important de saisir ça. Parce que la personne, c'est pas le personnage. Le personnage, c'est peut-être ce qu'on voit de la personne, ce qui se manifeste, ce que les gens voient. Enfin, c'est une chose très curieuse que prosopone, en grec, traduit le personnage. Et en même temps, c'est la personne. Le personnage, qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation de la personne. C'est de l'ordre de la manifestation. Je joue tel personnage. Alors, ça implique non seulement la personne, mais mon intelligence, ma volonté, tout le reste. Le personnage, c'est l'ensemble de la personne. Ici, j'essaie de préciser quels sont les éléments de la personne. Je dis le premier élément de la personne, c'est la substance. Pourquoi ? Parce que le premier élément de la personne, c'est la détermination dans l'être. La détermination fondamentale qui demeure tout le temps. Je varie, je change depuis mon berceau jusque maintenant. Et des personnes qui m'auraient vu dans mon berceau et qui me voient maintenant pourraient dire « Ah, il y a quelque chose qui demeure. » Ça se peut. Pour une mère, il y a quelque chose qui demeure. Ton premier sourire, exprimer ta physionomie, Et ce premier sourire, il se retrouve maintenant. Tu as 70 ans, ça se retrouve. Il y a quelque chose qui demeure et qui se manifeste et qui exprime ce qui a de stable dans mon être, dans ma personne, la détermination de mon être. C'est la détermination de mon être. Cette détermination de mon être a deux aspects. L'aspect corporel qui a complètement changé. Donc c'est pas ma personne, ça. Et puis, quelque chose qui demeure. Au-delà de l'individu, au-delà des changements, il y a quelque chose qui demeure. Oui, la personne, c'est ce quelque chose qui demeure. Qu'est-ce que c'est qui demeure ? C'est la substance, c'est l'âme. Donc la personne, elle implique la substance, elle implique l'âme. C'est ce qui demeure à travers tous les changements, toutes les vicissitudes. Et ça, c'est très important, parce qu'on retrouve quelque chose dans la recherche actuelle de ce qu'est la personne pour Husserl. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Il la nie pas, mais c'est ce qui demeure. C'est le sujet qui demeure. C'est le sujet, on voit très bien le sujet. Ce petit, il existe. Ce vieillard, il existe. Et l'existence du petit enfant et l'existence du vieillard, l'existence comme existence, c'est la même. Mais elle se manifeste très différemment. Chez le petit enfant, son sourire. Chez le vieillard, son sourire. Il y a quelque chose qui demeure. Et il y a en même temps une transformation. La personne, dans son fondement, est la même. Mais cette personne, c'est très développé. Cette personne du petit était en devenir. Elle était à la fois en devenir et au-delà du devenir, puisqu'elle est la même. C'est le sujet en tant qu'il demeure. C'est ce qu'il y a de fondamental en nous. En tant que ça demeure, ça se modifie, ça se donne dans des aspects différents. On voit la même personne dans son berceau à 10 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est toujours la même. Et on dira, tu es toujours le même, oui. Fondamentalement, tu es toujours le même. Et quand on dit ça, tu es toujours le même, on touche la personne. Tout est changé, il y a quelque chose qui demeure. Et l'essentiel, la personne. La personne est substantielle. Et c'est la substance même de la réalité qui est la personne. La personne est plus que ça. Elle n'est pas seulement ça. Mais elle est ça. Et c'est très intéressant de bien comprendre qu'elle est ça, parce que C'est une confirmation pour moi que il y a dans l'homme, la femme, qu'il y a quelque chose de radical qui ne change pas, qui est cet individu est très changé, mais il est toujours le même. Et alors, quand en féminologie, on dit que la personne, c'est le sujet fondamental, ce qui demeure toujours à travers des attributions secondaire, mais qui est le même à travers toutes ces attributions secondaires, vous touchez quelque chose qui existe, c'est la détermination fondamentale de la personne. Qui existe, qui se manifeste par sa manière d'être, qui se manifeste à moi de multiples façons, mais toutes ces façons diverses manifestent la même réalité cachée, l'âme, la personne. Donc, le premier élément de la personne, c'est la substance, c'est l'âme. En respectant la différence de substance et âme. Mais la personne, c'est les deux. Et c'est pour ça qu'au fond, normalement, on dira plus facilement que la personne, c'est son âme. Mais en réalité, on doit dire sa personne, c'est sa substance. Parce que je ne définis pas suffisamment une personne par le point de vue de la vie. Une personne subsiste dans son être. Sa vie peut, d'une certaine manière, disparaître à mes yeux. Mais cette personne demeure. La personne ne disparaît pas avec la mort. Elle ne disparaît pas avec la mort. Il y a là donc quelque chose de très important et qui est pour moi extrêmement important de voir que ma personne ne disparaît pas avec la mort. Mon âme demeure. Principe d'être et de vie. Le principe d'être et de vie qui est capable de se séparer du corps. Donc, la personne n'est pas premièrement le corps. Si la personne était premièrement le corps, ma personne disparaîtrait avec la mort. Parce que, avec la mort, ce n'est plus le vivant. Le vivant meurt. Tandis que la personne ne meurt pas comme personne. Elle est dans une situation très particulière. Le philosophe n'en dit rien, puisque j'en ai plus l'expérience. J'ai plus l'expérience de la personne qui est l'âme séparée du corps, qui est la substance selon la forme séparée de la matière. Parce que c'est par la matière que je puis toucher une personne. Et en même temps, je touche une personne par son corps, mais en réalité, je ne touche pas cette personne dans ce qu'elle a de premier. Je touche son corps et son corps est quelque chose de second. C'est pour la manifestation. Par le corps, je puis être un être qui se manifeste. Mais ma personne est autre chose que la manifestation de ma personne. Ah, voilà quelque chose que très important à souligner. Et je puis le faire parce que ma personne touche l'être. Et que mon être est premièrement dans ma substance, dans cette forme substantielle, et que mon être n'est que secondairement dans mon corps, en tant que cet être provient de la substance, provient de l'âme. Voyez comme c'est important, là, de bien saisir. La substance est principe. La substance, selon la forme, elle est principe, elle est première. Elle est donc la personne. Tout ce qui est second vient après. Alors la situation du corps, nous le verrons, fait essentiellement partie de ma personne, mais cependant, mon corps n'est pas ma personne, puisque mon âme existe au-delà de la mort. Je ne peux pas tout de suite le prouver, je le prouverai ensuite. Mais je peux le dire immédiatement que mon corps, c'est la manifestation de ma substance, c'est la manière dont ma substance cachée s'extériorise, se manifeste, se voit. Mais ma détermination dans l'ordre de l'être, elle est plus fondamentale que ma manifestation. Elle est ce qui dans l'être, dans mon être, est premier. Et ce qui, dans mon être, échappe à la mort. La mort sera une terrible division dans mon être. et ne sera pas l'anéantissement de l'être. Parce que l'anéantissement de mon être, ce serait si justement mon âme était tout mon être. Ou mon corps, plus exactement, serait tout mon être. Ce qui se manifeste à l'extérieur disparaît. Ce qui se manifeste à l'extérieur disparaît par la mort, devient mort, n'est plus moi, se sépare de mon moi profond, de mon moi premier, de mon moi fondamental, qui est ma substance. Et ce n'est pas ma substance. C'est la manifestation de ma substance. Et donc, au point de vue de la manifestation, c'est quelque chose qui peut arrêter mon regard. Je m'arrête à la manifestation parce que je suis un être sensible. Mais mon être n'est pas dans cette manifestation. Mon être n'est pas cette manifestation. Mon être provient de mon âme spirituelle. Et mon âme spirituelle détermine la première dimension de ma personne. La première dimension de ma personne est au-delà de mon corps. Et ceci se manifeste d'une façon nette à la mort. Par ma mort, normalement, mon âme subsiste en elle-même, par elle-même. Mon âme subsiste en raison même de ma possibilité d'exister, d'être au-delà de mon corps. C'est une substance immatérielle, mon âme. C'est une substance capable d'informer la matière, et ça nous le verrons, pour voir comment la matière intervient dans ma personne. Mon corps fait partie de ma personne. Mon corps n'est pas mon âme, n'est pas ma substance première, mais mon corps demeure substantiel. Il demeure substantiel parce que mon corps détermine, mon corps est déterminé par mon âme. Mon corps a donc un rôle particulier qui sera l'individuation. Et cela, on y reviendra. Je regarde maintenant cette première dimension de ma personne qui est mon âme. Cette première dimension qui est de l'ordre de la détermination. Je suis un être déterminé par mon âme. Et cette détermination me permet de comprendre qu'il y a quelque chose de substantiel en moi qui peut exister au-delà de la mort. Il y a en moi quelque chose qui demeure et qui résiste à la mort, parce que je suis spirituel. Il y a donc quelque chose de très particulier pour ma personne au plan métaphysique, parce qu'au plan métaphysique, mon individuation, ma matière, mon corps, n'a pas été formé directement par le Créateur. Ce que le Créateur forme en premier lieu, crée en premier lieu, c'est mon âme. Et cette première détermination de mon être par mon âme est quelque chose de très fondamental en moi. C'est quelque chose qui est premier. L'origine de mon âme dans ma personne, dans la formation de ma personne, demeure quelque chose de caché. Je ne puis pas savoir quand mon âme a été créée. Oui, c'est quelque chose de très important de bien déterminer cela. Mon âme a été créée par Dieu directement. À quel moment mon âme a été créée par Dieu, je peux émettre des probabilités très intéressantes, mais je ne le sais pas avec certitude. Ceux qui prétendent que l'âme est créée tout de suite dès la formation première affirme quelque chose de gratuite. C'est leur opinion. Mais on peut soutenir très bien autre chose. On peut soutenir justement que la première formation embryonnaire a pu se faire selon la virtus generativa, ce que dit saint Thomas, ce que dit Aristote. La virtus generativa des parents qui fait que l'union du corps et du sang est une union qui peut-être est très rapide, très immédiate au moment de la formation. Du corps, je n'en sais rien, je ne peux pas le savoir philosophiquement. que je ne peux que constater que l'âme existe nécessairement quand le fœtus aura la possibilité de vivre par lui-même, tant qu'il est dépendant du milieu maternel. Ceci est comme une manifestation qu'il vit grâce à sa mère et qu'il ne vit pas par lui-même. Je peux préciser le mieux possible, le plus possible, que le petit embryon, de plus en plus, a son propre rythme. Mais je ne peux affirmer l'existence de l'âme que lorsqu'il a une possibilité pour l'embryon de vivre indépendamment de cette première source vitale qui sont les parents. Il y a là un problème extrêmement important et qui touche ce problème de la personne. Je crois qu'il faut toujours bien distinguer les deux. Il y a fécondation matérielle qui fait qu'il y a tout de suite un nouveau vivant, mais cette fécondation artificielle va se développer et devenir indépendante de sa source, progressivement. On peut essayer de préciser quel est le moment en voyant que le fœtus a son rythme de vie propre. C'est peut-être le signe le plus sensible pour nous montrer qu'il a une âme propre qui n'est pas l'âme de son père ou sa mère, qui n'est pas la vis generativa donnée par son père et sa mère. L'apparition de l'âme ou la création de l'âme dans le fœtus n'est pas visible, n'est pas manifeste d'une façon nette. On peut discuter. C'est du reste très étonnant, ça, de ne pas pouvoir préciser exactement quel est le moment où l'homme, le petit fœtus, a sa vie propre. Lorsqu'il est né, il a bien sa vie propre. Mais bien avant la naissance normale, puisque on peut, quand il y a une naissance antérieure à l'aspect normal, on peut faire vivre ces petits embryons par des couveuses électriques. ça prouve qu'il y a déjà en eux une âme spirituelle qui leur donne leur indépendance. Mais si l'embryon est séparé trop tôt de sa source, il ne pourra pas vivre. Est-ce qu'il y a à ce moment-là création de l'âme? Point d'interrogation. On ne sait pas. C'est assez extraordinaire de voir que l'âme humaine créée par Dieu demeure cachée. Son origine, premier moment. Donc, au plan philosophique, je ne peux pas préciser. Je regarde la formation de l'embryon qui aboutit à cette indépendance de l'embryon vis-à-vis de la mère. Et donc, ayant en lui la possibilité d'exister séparément à l'égard de sa mère. Il y a donc cette chose remarquable que le premier moment de l'âme dans l'embryon demeure pour le philosophe, pour l'homme, caché. On peut affirmer quand le petit être né qu'il a une âme, on peut l'affirmer qu'il a une âme quand, même par accident, il doit être séparé de sa mère et qu'il peut être et qu'il peut se développer lui-même grâce à un artifice humain qui remplace le milieu maternel. Donc, on peut préciser cela, mais il y a une ligne où on ne sait pas, il me semble. Parce que facilement, on affirme que l'embryon sera déterminé par l'âme, mais on l'affirme quelquefois beaucoup plus vite pour un point de vue apologétique, pour montrer qu'on n'a pas le droit d'abandonner le fœtus. On tue un homme. Ce qui est sûr, c'est que ce fœtus est pour être informé par l'âme. Et du fait même qu'il est pour être informé par l'âme, on doit le respecter comme s'il était déjà un homme.